Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why,
this is why, this is why I'm hot. Bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique de France Culture jusqu'à 20h30. Ce soir, nous parlons podcast dans cette émission. Désormais, chaque année, nous consacrons une émission Soft Power au podcast et à leur actualité. L'état des podcasts 2019, tel est donc le titre de cette émission ce soir. Alors, un podcast, on le sait, c'est un outil de balado-diffusion, pour le dire en français, c'est-à-dire tout simplement un programme audio ou radio que l'on écoute ou réécoute à la demande. Quand la radio est un flux avec une programmation, une grille, une logique d'antenne, si vous voulez par exemple écouter le journal, vous devez le faire à l'heure précise où il est diffusé, eh bien le podcast, lui, est indépendant et autonome. Vous l'écoutez sur votre portable, ordinateur ou smartphone, à l'heure que vous voulez, par abonnement ou à la demande en streaming. Le podcast est généralement gratuit et il peut s'agir soit d'une création originale, on parle alors de podcast natif, ou plus fréquemment, pour l'instant, de rediffusion d'une émission en replay. Et vous êtes plus de 130 000, par exemple, à réécouter chaque fois cette émission Soft Power en podcast. Alors, plusieurs parties ce soir dans notre émission pour tenter de faire le tour de la question à 360 degrés, si on peut dire, pour cet état du podcast 2019. De quoi parle-t-on et où en est-on? Quelle créativité, quelles nouvelles écritures avec les podcasts? Quel modèle économique aussi? Est-ce que ça peut être rentable, un podcast, ou du moins auto-financé? Comment mesure-t-on l'audience des podcasts? Et enfin, que nous disent les podcasts en matière de nouvelles pratiques d'écoute de la radio et du son, de la consommation des jeunes, et de l'avenir aussi à l'heure des assistants vocaux, des enceintes connectées ou des voitures connectées. Le podcast, un phénomène de mode ou un phénomène durable? Tel est le sujet de Soft Power ce soir. Pour en parler, deux journalistes en plateau, Sandrine Cassini, journaliste au journal Le Monde, Élise Rack, journaliste à Télérama, et puis j'accueille aussi, c'est la première fois dans Soft Power, la directrice de France Culture, notre directrice Sandrine Trainer. Bonsoir à toutes les trois, OSF, c'est un cast très féminin ce soir. Seconde partie d'émission à 20h, votre invité, Innovation, lui sera un homme, OSF, nous parlerons encore de podcast.
Toujours, il faut bien une petite présence masculine, mais non, c'est Thibaut de Saint-Maurice, il est philosophe, mais il est aussi chroniqueur à la radio. Il est surtout l'un des deux cofondateurs avec Pierre Cerisier du premier festival dédié au podcast en France, c'est le Paris Podcast Festival. Il aura lieu à la Gaîté Lyrique du 19 au 21 octobre, c'est-à-dire le week-end prochain. Alors pourquoi n'y avait-il pas de festival en France dédié au podcast? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Et qu'est-ce que ce festival a pour ambition de jouer comme rôle aussi dans cette économie qui fleurit mais qui est encore un peu fragile?
20h10, le club de la presse numérique. Nous nous demanderons si l'économie numérique a perdu ses valeurs, point d'interrogation, et nous en débattrons avec Séverin Naudet, blogueur, qui est aussi à BFM Business et l'un des dirigeants de la société Amaris, ainsi que Sandrine Cassini, qui restera avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Voilà pour le sommaire de Soft Power ce soir. Cette émission est exceptionnellement enregistrée. Elle est réalisée par Marie Placé, avec en régie Élise Le. Elle a été préparée par David Lavaux, avec pour les réseaux sociaux Clara Brelot, car vous pouvez également suivre cette émission sur Twitter au mot-clé Soft Power, ainsi que sur Instagram, sur Spotify, sur Facebook, sur LinkedIn, bien sûr en podcast et sur France Culture jusqu'à 20h30. France Culture, Soft Power, l'actualité comme chaque semaine, l'actualité de la politique culturelle, des industries créatives et des médias au début de cette émission, avec vous Joël Fez, qui nous parlait ce soir de Japonisme 2018, une saison japonaise qui a lieu depuis le 12 juillet et jusqu'à fin février 2019.
On vous en parle parce qu'on est à mi-parcours de cette saison japonaise en France, saison qui célèbre les 160 ans de relations diplomatiques entre la France et l'Empire japonais, et c'est une saison qui fonctionne d'ores et déjà extrêmement bien, puisque on est à la moitié, disons, des grandes expositions qui ont été prévues dans le cadre de ces 6 mois, donc dédiés au Japon en France, avec déjà, d'ores et déjà, des succès records, notamment par exemple au Team Lab à la Villette. C'est un collectif de jeunes artistes japonais qui travaillent énormément sur le numérique.
Installation numérique
absolument incroyable que vous ne pouvez plus voir parce qu'elle vient de s'achever et c'est un record absolu pour la Grande Halle de la Villette. D'autres expositions qui, elles, débutent, notamment une exposition consacrée au star architecte Tadao Ando à Beaubourg qui s'ouvre, et puis Jakushu, les rôles Enfin, c'est au Petit Palais. Un petit retour finalement sur ces années japonaises à Paris et les années françaises au Japon, puisque il y a effectivement une espèce de fascination mutuelle de la France pour le Japon et du Japon pour la France, et ce depuis le 19e siècle. Le japonisme, faut-il le rappeler, c'est ce mouvement où finalement le Japon influence, inspire énormément les peintres français, notamment Monet, au début du 19e siècle. Fascination qui n'a cessé de s'accroître. Il faut rappeler que la première visite d'État d'un président français, c'était Mitterrand en 82 au Japon, et en 98, à peu près 16 ans plus tard, on a Jacques Chirac qui lance la première année de la France au Japon, et depuis, ces saisons n'ont cessé de s'alterner avec de plus en plus de bonheur. Évidemment, c'est un enjeu extrêmement fort de soft power, la culture japonaise en France. Elle est présente à la fois par la culture classique japonaise, et évidemment par toute la culture des mangas, aujourd'hui la culture des jeux vidéo, avec Pokémon Go, qui, faut-il le rappeler, quand même un jeu d'inspiration japonaise. C'est un enjeu de soft power d'autant plus fort que l'année dernière, en 2017, il y a eu 258 000 touristes français qui sont allés visiter le Japon. Il y a des lignes nouvelles qui s'ouvrent avec des prix qui ont quasiment baissé de moitié au Japon. Donc c'est évidemment un enjeu de soft power primordial pour le Japon, ne serait-ce que pour le tourisme.
Alors, enjeu de soft power, à l'occasion des 160e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Japon, la japonophilie, si on peut dire, en France, est développée depuis, vous avez cité Jacques Chirac, mais aussi André Malraux auparavant, Paul Claudel, Jack Lang a été un grand japonophile. C'est aussi un enjeu de hard power au moment où les Jeux Olympiques de Tokyo sont annoncés pour 2020, alors même que la Japan Foundation et la Japan Expo, vous l'avez dit, connaissent un succès et organisent ces manifestations.
Évidemment, alors, en parallèle quand même de cette saison culturelle japonaise, il y a eu quand même, passé presque inaperçu, mais pas tout à fait, la venue du prince héritier, du futur empereur du Japon, Naruhito, qui a été reçu par Emmanuel Macron comme un chef d'État, alors qu'il n'a pas les prérogatives d'un chef d'État. C'est un empereur, donc il n'a pas de pouvoir politique, mais il a eu droit à une visite dans la France entière, visite de 5 villes. Les deux, Emmanuel Macron et Naruhito, ont assisté à une représentation de Théâtre No. Il faut quand même rappeler qu'on a les meilleures troupes de Théâtre No et de Kabuki qui sont à Paris en ce moment. On ne peut même pas les voir au Japon. Évidemment, derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Du hard power, c'est-à-dire aussi un rapprochement économique de plus en plus voulu par la France. C'est François Hollande qui a essayé d'ouvrir de plus en plus les relations économiques avec le Japon, alors que pour le moment, on était quand même sur des échanges plutôt centrés vers la Chine économiquement. Et les deux pays ont vocation, tous les deux, à échanger de plus en plus. Il faut rappeler que le Japon est aujourd'hui, devant la Chine, le premier investisseur asiatique en France.
Voilà, Japonisme 2018. Dans un instant, on parle podcast sur France Culture, l'état du podcast 2019. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité par une actualité musicale, voici Paul Simon, à un moment qu'on pourrait appeler la cérémonie des adieux, puisque l'artiste a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière, fort riche d'ailleurs. Il faut dire qu'il a eu 77 ans hier, et qu'à l'image de John Baez ou Elton John, il a décidé de s'éloigner peu à peu de la scène. Alors on l'a aimé longtemps, dans son duo célèbre avec Arthur Garfunkel. Simon et Garfunkel, c'était l'un des deux. Et depuis les années 70, Paul Simon avait entamé une carrière solo, qui n'a pas eu peut-être autant de succès que Mrs. Robinson, mais qui était plus qu'honorable, notamment grâce à une voix splendide. Ce qu'atteste ce succès au titre étrange et pictural, René and Georgette Magritte with their dog after the war. Le morceau vient d'être repris dans ce nouveau et peut-être donc dernier album, The Blue Light, sorti le mois dernier. To the penguins, the moon glows, the orioles and the five satins, the deep forbidden music they've been longing for. René and Georgette Magritte with their dog after the war. René and Georgette Magritte with their dog after the war. We're strolling down Christopher Street when they stopped in a men's store. With all of the mannequins dressed in the style that brought tears to their immigrant eyes. Just like the penguins, the moon glows, the orioles, the five satins, the easy stream of laughter floating through the air. René and Georgette Magritte with their dog après la guerre.
Side by side they fell asleep. Decades gliding by like Indians.
France Culture, Soft Power, jusqu'à 20h30. On parle ce soir des podcasts, l'état du podcast 2019. Et nous sommes avec Sandrine Cassini, journaliste au Monde, Élise Rack, journaliste à Télérama, et Sandrine Trainer, directrice de France Culture. On pourrait commencer cette émission pour, en parlant un tout petit peu de Radio France, qui reste le premier producteur et diffuseur de podcasts en France. De l'ordre de 60-70% des podcasts distribués en France le sont par Radio France. Ce qui est étrange, au fond, dans le phénomène des podcasts, c'est que, en tout cas pour l'instant, on est constamment, Sandrine Trainer, dans une progression. Chaque mois, il y a plus d'auditeurs, plus de podcasts, plus de manières d'écouter la radio. Radio France, c'est combien de podcasts à peu près par mois et France Culture ?
C'est plus de 60 millions de podcasts par mois, pour l'essentiel distribués par France Inter ou France Culture. Mais France Musique est présente aussi et d'autres chaînes du groupe, ce qui représente une progression. Radio France, sur deux ans, c'est plus de 80% de progression. France Culture, c'est plus 100%.
C'est à peu près combien, France Culture, en nombre de...
En nombre de podcasts, France Culture avoisine les 25 millions de podcasts. Mais vous savez qu'au mois d'août, Frédéric, les mesures de comptabilité ont changé. Donc on va sans doute accuser moins 10%. Et puis ça remontera cet été. France Culture a été la première offre de podcasts téléchargés.
On reviendra sur les méthodes pour comptabiliser et pour mesurer cette audience. Comment est-ce qu'on explique ce phénomène et sa progression? Je m'adresse à vous trois, Sandrine Cassini, Élise Rack, Sandrine Trainer et Zoé Sfazet avec moi. Il y a d'une part évidemment le phénomène du smartphone qui fait que le transistor est devenu le téléphone, et d'autre part la 4G qui permet d'être connecté en permanence et donc de pouvoir télécharger de nouveaux épisodes, etc. Le phénomène des transports qui lui n'est pas nouveau, mais qui fait aussi qu'on écoute la radio à tout un tas de moments, et évidemment on l'écoute en podcast les uns les autres. Comment vous voyez le phénomène pour commencer? Sandrine Cassini.
Tout d'abord, dire que c'est pas un phénomène nouveau, le podcast. Il y a une espèce de résurgence aujourd'hui. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir écrit des papiers sur le nouveau phénomène de podcast et son succès il y a déjà une décennie, quoi. Donc, il faut déjà dire que le podcast, c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Alors, effectivement, il est favorisé par ces nouvelles pratiques d'écoute. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, s'il y a ce nouveau regain pour le podcast, c'est aussi parce qu'il y a des nouvelles technologies qui le favorisent. Vous avez cité le smartphone, vous avez cité la 4G. Aujourd'hui, il va y avoir les enceintes connectées dans le salon. Je pense que c'est ce qui va faire peut-être ou pas, en tout cas, son succès. En tout cas, les fabricants de podcasts, c'est là-dessus qu'ils misent, dans les voitures. Donc, c'est vraiment les barrières technologiques qui changent la donne et favorisent la radio, et changent la donne aussi pour les radios.
André Trainer.
Oui, mais peut-être il faudrait commencer par dire tout simplement que ce qui favorise le podcast, c'est que le podcast est un outil de diffusion des contenus qui est tout simplement formidable. Moi, je comprends très bien que cela marche très fort, pour la simple raison que c'est quand même une invention merveilleuse, dès lors qu'elle vous permet d'écouter ce que vous voulez quand vous voulez. C'est un instrument de liberté dans l'écoute que l'on connaissait sur la musique. Vous pouviez mettre un disque, mais vous pouviez pas mettre une émission. Aujourd'hui, vous pouvez mettre une émission strictement quand vous voulez. Et peut-être juste un deuxième élément. Frédéric, vous mentionniez au début de l'émission le fait qu'il y a les podcasts dits natifs, on y viendra sans doute, et les podcasts dits de replay. Mais en fait, il y a un troisième usage qui est très important, qui est celui que nous connaissons à France Culture et à France Inter pour certaines émissions, qui est en fait le podcast qui devient un élément de bibliothèque. C'est-à-dire qu'on ne l'écoute pas tout de suite, on ne l'écoute pas en rattrapage. Ça, c'est vrai des chroniques
d'actualité,
voilà. Où on se dit, ah oui, il paraît qu'il était formidable, je le réécoute. Ouais. C'est pas du tout ça que l'on observe par exemple nous, puisque ce sont nos émissions de fond, des émissions d'une heure de fond qui sont podcastées, qui sont rangées dans la bibliothèque de podcast, et on l'écoute au moment où,
on a son Deleuze, on a son Derrida, et etc.
Exactement.
Juste une remarque, au fond, on est dans une période où l'image, la culture visuelle, la domination des écrans est importante, et en même temps, le son tient bon. C'est comme s'il y avait une sorte de retour de la voix on pourrait dire, Israq.
Oui, c'est clair, on le verra, je pense, quand on parlera des assistants vocaux. Mais pour revenir aux raisons du développement du podcast, c'est vrai que le podcast de réécoute existe depuis longtemps. Mais avec le podcast natif, je pense aussi que c'est un moyen pour les radios traditionnelles d'attirer de nouveaux publics, d'attirer de nouveaux auditeurs. Quand on regarde un peu l'audience cumulée du média radio dans son ensemble, ça commence à baisser. Quand on compare les deux campagnes présidentielles, on a perdu plus de 2 points. Donc c'est aussi une manière d'attirer de nouveaux auditeurs. Quand on voit le podcast au lit de France Inter, c'est clair que là, ils vont vers les enfants, ils vont vers les jeunes parents. Et ça, c'est un nouveau public.
Mais une fois encore, je crois qu'on passe à côté d'une partie du phénomène quand on parle de podcast de réécoute. Ce n'est pas de la réécoute, en fait. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est que le podcast, c'est plus une technologie. C'est comme le numérique. Le numérique, on le sait bien dans cette émission, ce n'est plus une technologie. C'est devenu une opportunité éditoriale. C'est devenu un usage. C'est très, très différent. On ne va pas réécouter les chemins de la philo qu'on a déjà écoutés. Simplement, on s'intéresse à un sujet qui se trouve avoir été traité, être référencé.
Est-ce que ça, c'est permettre juste particulier à France Culture, bah, et
non,
à ses
émissions. Pas nécessairement. Moi, je pense vraiment qu'il y a, vous êtes en train de le dire, il y a eu un développement quand même. Le numérique, de manière générale, on a vécu un 20e siècle extrêmement visuel. On ne se pose plus la question de savoir pourquoi la vidéo marche.
Vous avez vécu un 20e siècle visuel.
Non, mais on ne se pose plus la question de savoir pourquoi la vidéo marche sur Internet. On a eu un espèce, avec le développement du numérique, d'investissement très fort vers le visuel. En réalité, l'audio ne fait que suivre. Et c'est vrai qu'effectivement, la question de savoir pourquoi on parle de podcast aujourd'hui, on est en train de parler d'un concept qui a de moins en moins, disons, de pertinence en lui-même tel qu'il est. Et puis il faut aussi rappeler, notamment pour les podcasts natifs, que faire du son, alors c'est la question, faire du son bien, c'est très difficile, mais ça coûte pas si cher. Et donc c'est aussi un élément très important pour certains, évidemment on en parle ici, on a beaucoup de jeunes créatifs, on en parlera avec les créateurs justement du Paris Podcast Festival, et qui peuvent se permettre des vraies innovations, et à la fois sur le fond, sur la forme, dans tous leurs propos, avec ce nouvel outil qu'est le podcast.
Salut Julien, c'est maman.
C'est maman.
C'est maman. Salut ma beauté, c'est maman. Oui, bonjour ma grenouille. Salut ma petite chérie.
Bah, c'était papa, maman.
Oui, mon fils. C'est maman. Donc voilà.
Reçu vendredi 13 à 19h08.
C'est pour te donner une bonne nouvelle, j'ai mon micro, mais si tu savais le délire que ça a été.
Parce que ce matin, je regardais la pub de Lidl. Il y a un cuiri à 15,99€.
Chez Darty, ils m'ont dit qu'il était à la poste depuis le 6.
Et j'ai commencé à passer des commandes. Donc pour ta chambre, j'ai plein de choses. J'ai ton lit, les rideaux, les lampes, le fauteuil et la housse de couette aussi.
Voilà, Allô Maman, Arte Radio, sans publicité d'ailleurs pour une marque qu'on ne citera pas.
Ah non, tout à fait, mais non, mais c'est un documentaire que vous pouvez écouter, c'est un des must, des best écoutés, je ne sais pas, il faudra qu'on invente le terme pour ça, d'Arte Radio. Arte Radio qui comme Radio France évidemment, mais c'est d'autant plus intéressant que ça vient d'un groupe qui à la base, dont le fond, dont le cœur de métier est plutôt la télévision. Arte Radio est un des pionniers avec Radio France du podcast et en tout cas de l'invention de contenu créatif, puisqu'ils sont là depuis 2002, c'était initialement une web radio avant de devenir un site où il y a des podcasts. Et effectivement, dès le début, sous l'égide de Sylvain Gire, l'un des premiers à envisager réellement le son, et puis ce type de site et de format, comme des lieux d'expérimentation totale, formelle, aussi bien sur le journalisme que sur la fiction, que sur ce type d'éléments. Voilà, ça c'est un truc qui a été écouté, je crois, plusieurs millions de fois, et c'est simplement un montage de messages de mère sur un répondeur. Ça dure 25 minutes, c'est absolument délicieux. Arte Radio, qui a été confronté à de vrais problèmes économiques, parce que ça c'est des vraies questions qu'on peut se poser, avec certaines directions qui l'ont financé, certaines directions qui l'ont moins financé, qui maintenant aujourd'hui, comme plusieurs institutions, recherchent aussi des arrangements avec les sociétés de droits d'auteur. C'est évidemment un enjeu crucial, la question de savoir ce que la diffusion de ces podcasts sur un média comme Internet peut ou pas générer comme droit, s'il doit être préfinancé, si ensuite on récupère des droits ensuite. Arte Radio, qui est quand même un pionnier et qui continue d'être un vétéran et d'explorer à la fois on a des séries documentaires, on a des séries de fiction. Voilà, c'est une offre extrêmement vaste.
Alors quand j'ai débuté la radio au début des années 90, on croyait que tout avait été fait en matière de radio. Au fond, on avait depuis Orson Welles, etc., toutes les hypothèses, toutes les manières, les techniques de radio avaient été creusées et développées. Aujourd'hui, grâce au podcast, on est à nouveau territoire de créativité. Est-ce que les uns les autres, et on rentre maintenant dans la partie nouvelle écriture, créativité, innovation pour parler des podcasts, le podcast comme œuvre, le podcast comme outil qui permet d'expérimenter, Sandrine Trainer?
Oui, bien sûr. En tout cas, nous c'est, il est évident que c'est pour cela que nous avons commencé à produire des contenus natifs, parce que l'on s'interrogeait par nature. Hein. France Culture est une radio dédiée en partie à la création. On s'interrogeait sur ce que l'on allait être capable d'inventer. Et d'ailleurs, on a commencé par inventer des choses que vous avez tous oubliées, et moi j'essaye de l'oublier aussi, parce que c'était... Mais Zoé a raison de rappeler que le son est quand même une forme souple qui permet justement d'essayer des choses. Et d'ailleurs, on a appris, et c'est la grande vertu du numérique, à retenter des choses. Néanmoins, si on prenait un exemple, puisque nous, on n'est pas tellement dans les formes de tutoiement, de dialogue entre jeunes, etc. Chacun ses espaces. Mais en revanche, en matière de fiction comme de documentaire, on apprend à écrire de manière sérielle, c'est-à-dire à raconter des histoires sur des formats qui sont généralement de 8 à 15 minutes. Des choses que l'on ne faisait pas ou que l'on ne faisait plus, parce que ça correspond plus du tout à l'usage de la radio. En revanche, ça correspond à l'usage du podcast.
Élise Raquet, nouveau territoire de créativité.
C'est clair que quand on parle aux journalistes qui produisent des podcasts, le premier mot qui leur vient à la bouche en général, c'est liberté, parce qu'ils sont trop contents d'être libérés d'une contrainte d'antenne, donc avec une temporalité fixe. Ils font un peu ce qu'ils veulent dans le format qu'ils veulent. Après, dans les formats d'écriture, finalement, on retrouve les formats classiques de la radio. Dans les podcasts natifs, il y a du documentaire, il y a du reportage, il y a beaucoup...
L'investigation.
Évidemment, l'investigation. Il y a un peu trop, à mon avis, de talk aussi. Bon, c'est pas cher, mais ça permet de regrouper des petites communautés. Et puis, ça donne aussi beaucoup de liberté au niveau technique. Je pense que Sandrine Trainer, vos techniciens, s'en donnent à cœur joie. Le fait de produire exclusivement pour le numérique, ça permet d'être libéré aussi de la contrainte du stéréo, et donc de penser quelque chose vraiment à 100% pour du binaural ou du 5.1 même.
Oui, je pense qu'on peut, dès qu'il y a une nouvelle technologie, il y a de nouvelles formes qui émergent, de nouveaux artistes. On peut penser à YouTube qui a fait émerger de nouveaux artistes. On peut penser aux radios libres,
les booktubers,
etc. Oui, parce
qu'en
fait, ça libère la technique, mais ça aussi, ça libère le ton. C'est-à-dire que quand on est dans un environnement déjà cadré d'un média, quel qu'il soit, France Culture, Le Monde, etc., finalement, on reste contraint, on est moins libre. Donc, si le terrain est vierge, c'est plus facile pour inventer, et ça fait aussi émerger de nouvelles personnalités. C'est ça qui est vachement intéressant, je trouve.
Tu es mon fils ?
Quoi ?
Il y a 12 ans, ils t'ont arraché à moi. Nous allions embarquer dans la cité, et des terroristes avaient appris que nous n'étions qu'une poignée à avoir été choisis pour vivre ici. Ils t'ont enlevé pour réclamer une rançon. J'étais la femme du président. Quel enfant avait plus de valeur que le fils du président ?
C'est moi parti.
Mara, écoute-moi. Ils t'ont arraché à moi. Ils t'ont tué pendant 12 ans. Mais j'étais tout de suite reconnue parmi la foule. Le peuple se révoltait. Moi, je ne voyais que toi.
Je veux m'en aller.
Mara, juste... J'aimerais passer un peu de temps avec toi. Je ne veux rien t'imposer. Je veux juste te montrer quelques photos. Essayer de raviver tes souvenirs.
C'est moi parti. Je vais rentrer chez moi.
Nadir ?
Oui ?
Vous pouvez raccompagner Marin ?
Bien sûr, Madame la Présidente.
Marin ? Tu aimes toujours les étoiles ?
Tout le monde aime les étoiles.
Sandrine Trainer, qu'est-ce qu'on écoute là ?
Écoutez, là vous êtes en train d'écouter un épisode de l'Appel des Abysses. Alors, en fait, il faudrait le rembobiner et que chaque personne qui nous écoute mette un casque, parce que cette fiction, c'est donc une fiction qui a été réalisée en son immersif. C'est des processus, pas tant de prise de son que de mixage, extrêmement élaboré, qui est une technique de prise de son sur laquelle on travaille en permanence à Radio France. Il y a des techniciens qui sont entièrement dédiés à la recherche sonore. Je crois que on est au cœur de ce que l'on essaye de faire, et plus des gens en feront du reste, en dehors de Radio France. Et plus on créera et on développera cet usage, et plus on sera heureux. C'est vraiment une série feuilletonnante sur des territoires de la fiction qui n'étaient pas forcément nos territoires naturels. C'est le produit d'un appel à projet qu'on avait, nous avions monté et lancé au Festival d'Avignon avec la SACD, auprès de jeunes auteurs. Donc nous avons travaillé, là c'est le troisième podcast de fiction que nous venons de lancer, nous avons travaillé vraiment avec des gens qui étaient des nouveaux entrants dans le monde du podcast. Et ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que contrairement à d'autres formes de podcast, nous non seulement nous y mettons des moyens, mais nous y mettons d'une certaine façon plus de moyens que sur certaines fictions de la radio. C'est-à-dire que nous pensons vraiment que développer le numérique, et on va le faire à partir de la rentrée sur la création sonore, développer l'usage du podcast, c'est le respecter en tant que tel. Donc c'est certainement pas de la radio moins chère, plus facile, plus dégradée. C'est exactement l'inverse. Il y a les mêmes moyens que sur le feuilleton radio diffusé tous les soirs à l'antenne.
Alors, est-ce que je peux vous demander, puisqu'on parlait à l'instant des nouvelles écritures, de la créativité, l'innovation des podcasts, peut-être aux uns et aux autres, un ou deux podcasts que vous aimeriez recommander dans une très vaste offre, évidemment, Élise Rack?
Alors, j'en ai deux coups de cœur cette année. Alors, il y en a un qui vient d'arriver, là, depuis la rentrée, c'est tous les mardis sur Arte Radio. C'est Olivier Minot qui nous fait sa dépêche. Et honnêtement, j'ai pas entendu un podcast comme ça ailleurs. Donc en fait, il fait une revue de presse, mais une revue de presse, donc il découpe des journaux, il introduit des extraits de JT Radio, il va voir les gens dehors, il met des blagues, et surtout, c'est de l'info avec de l'humour, mais aussi de l'engagement, parce qu'il fait des mini-enquêtes. Donc voilà, c'est génial.
Le second.
À y aller. Et le second, alors c'est sur le Poste Général de Vincent Malone. C'est une plateforme de podcast natif. Ça s'appelle Les interviews enfantins de Monsieur Barbarin. Et alors parmi cette liste d'interviews d'enfants, il y en a un qui s'appelle Badaboom. Et là, pour le coup, pour moi, c'est de l'art sonore. Il y a un travail de réalisation sur le montage, sur le son. C'est presque du slam. Enfin, c'est génial.
Sandrine Cassini.
Moi, c'est plutôt quelque chose de classique. C'est Kif Taras avec Rokhaya Diallo. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait commencé sur YouTube. Et finalement, maintenant, l'émission est sur Binge Audio. Donc, c'est plus du talk. Mais c'est intéressant. Elle est moins agressive, on va dire, entre guillemets, que sur Twitter. C'est plus posé, c'est intéressant, c'est frais. Moi, j'aime bien.
Zoé Sfez.
Bon, moi, je reste une classique. C'est Transfert, qui est un podcast qui est produit par deux jeunes femmes qui ont fondé un studio qui s'appelle We Media, qui au départ étaient des journalistes de Slate, qui ont créé leur studio de podcast et qui maintenant produisent un podcast pour Slate qui s'appelle Transfert. Il y en a beaucoup aujourd'hui sur qui rappellent un peu ce qu'on peut aussi entendre sur France Culture, soyons très honnêtes, qui sont des entretiens, des récits, une histoire plus ou moins longue. En général, une demi-heure, ça peut durer jusqu'à une heure. On est dans l'intimité des gens. Et voilà, moi, j'écoute ça quand je fais la vaisselle, je me sens moins idiote. Voilà.
Alors, les podcasts, évidemment, c'est aussi une offre à la fois très vaste. On peut penser à des journaux comme le New York Times qui font The Daily, le New Yorker qui fait le formidable Still Processing de Wesley Morris et Jenna Wartham sur la culture de qualité, la culture populaire, tout ça très mixé. On peut citer aussi de nombreuses niches politiques, par exemple Democracy Now. On peut citer des niches sur le sport, sur les LGBT, sur la cuisine, vous l'avez dit. Sandrine Trenin, vous avez vos podcasts hors France Culture.
Écoutez, justement.
Écoutons, c'est le mot.
J'ai écouté plein de choses ces derniers temps en soi, et puis pour préparer cette émission. Ce qui me frappe quand même, c'est le développement de beaucoup de podcasts qui me paraissent en fait trop proches de ce que nous faisons. Et il y aurait un véritable appel à ce que les gens développent précisément des formats
différents.
Par exemple, j'ai entendu des formats de type émission d'économie ou émission de ceci, émission de cela. C'était pas mal, mais honnêtement, ça ressemble encore beaucoup trop au modèle original de la radio. Mais... Or, en fait, ce que montrent les audiences, juste pour finir là-dessus, puisque Élise l'a mentionné tout à l'heure, c'est que il n'y a pas de vaste communicant aujourd'hui repéré entre l'audience de la radio historique sur le son et l'audience des podcasts. J'en veux pour preuve que l'audience des podcasts de France Culture, dont on aurait pu penser qu'il allait cannibaliser l'antenne, a en fait évidemment produit exactement l'effet inverse, c'est-à-dire plus nos podcasts augmentent, plus notre audience d'antenne augmente. Et je pense que si on se retrouve avec un marché du podcast noyé sous les formats se ressemblant d'émissions sur ceci ou sur cela, en fait on va simplement noyer le format et les le format et l'usage, les gens ne sauront plus où aller. Et peut-être, et on voit, j'ai lu un article fort intéressant du centre de recherche de l'école de journalisme de Columbia qui dit, en fait, le podcast risque de devenir une bulle susceptible d'éclater dès lors qu'on va se retrouver avec beaucoup trop de choses dans des formats quand même et une qualité relativement dégradée qui ne prouvera plus sa capacité à innover.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
France Culture, Soft Power, ce soir on parle des podcasts. Nous sommes avec Sandrine Cassini, journaliste au Monde, Élise Rack, journaliste à Télérama, Sandrine Trainer, directrice de France Culture, et Zoé Sfez avec moi. On a parlé innovation, on a parlé de l'état des lieux, au fond où en est-on, de quoi parle-t-on. Passons maintenant au modèle économique. Modèle économique, au fond, les podcasts et surtout les sociétés qui les développent sont toutes en quête d'un modèle économique pérenne. Elles ont chacune leur version. Je peux citer des sociétés qui ont le vent en poupe comme Binge Audio, de Joël Ronez, qui est en train d'être acheté par Les Échos, Boxon de Pascal Clark et Candice Marshall, Magellan, c'est une plateforme qui vise à agréger des podcasts que lance Mathieu Gallet, Louis Média, on peut citer des producteurs traditionnels, Art Radio, ça a été dit, Radio France, des médias papier ou non audio comme Slate, le New Yorker, le New York Times, l'Équipe, Les Échos, chacun de ces médias, même Grazia, cherchent à avoir leur podcast. Comment est-ce qu'on voit les uns les autres, les modèles économiques qui émergent? Qu'est-ce que tout le monde se cherche un peu entre brand content, publicité, freemium et parfois tout simplement des plateformes de cofinancement?
Bah écoutez, je pense Sandrine que Cassini. Voilà, c'est en fait c'est la question cruciale du modèle économique qui se pose depuis longtemps et qui continue de se poser malgré l'effervescence autour du podcast. Tout à l'heure, Sandrine Trainer disait il y a beaucoup de podcasts qui se ressemblent, qui sont un peu tous les mêmes dans cette nouvelle effervescence. Mais il faut savoir que produire des séries comme vous le faites, comme Abyss, je pense que c'est assez coûteux. Donc toutes ces petites sociétés que vous citez, Binge Audio, Louis Média, de nouvelles écoutes.
Je ne les ai pas citées, en
l'occurrence. Non, citer Frédéric. Elles n'ont pas les moyens de faire ça. Et donc, aux États-Unis, en fait, il y a. On parle déjà d'explosion d'une bulle. C'est ça qu'il faut savoir. C'est-à-dire que. On a donné des chiffres, il y a des chiffres de publicité qui sont, et de croissance, de revenus publicitaires qui sont énormes. On parlait de 314 millions de dollars pour le marché l'année dernière, donc une augmentation de 86% en un an. Les prévisionnistes disent que en 3 ans, on pourrait augmenter de ses revenus de 110% d'ici 2020 et pour atteindre quasiment 700 millions de dollars. Mais en même temps, il y a tout un tas de signaux venus des États-Unis qui montrent que ça va pas si bien que ça, et notamment, un tas de boîtes commencent à supprimer la production interne de podcasts, type BuzzFeed, type Panoply, type Audible d'Amazon, qui ont réduit les équipes internes pour se retrouver agrégateurs. Donc c'est bien la preuve que ces grandes sociétés, qui ont beaucoup de moyens, ont aussi du mal à trouver les modèles de demain.
Élise Rack, quels sont selon vous les modèles?
Mais effectivement, là, aux États-Unis, ils commencent à licencier leurs équipes.
Ça dépend où. BuzzFeed, ils licencient leurs journalistes tout court,
oui,
pas que les podcasts.
Ils ont dit clairement que ce qu'ils allaient gagner en licenciant l'équipe podcast, ça allait aller vers la vidéo. Et par contre, Monsieur Weisberg, qui dirigeait Slate Group, donc qui vient de licencier en grande partie l'équipe Panoply de podcast, vient de démissionner quasiment en simultané pour aller cofonder une start-up de podcast.
Bon. Donc, on a l'impression qu'il y a du désespoir et de l'espoir à la fois.
Le marché est en train de se réguler avec des gros acteurs qui sont en train de sortir.
Oui, mais il y a quand même un problème de modèle. Enfin, moi, je sais pas, peut-être vous pouvez nous dire comment vous faites. Vous faites un peu de pub aujourd'hui.
Sans entraîneur. Donc là, il y a le pré-roll, ce qu'on appelle. C'est quoi le pré-roll?
Le pré-roll, c'est, vous savez, ce petit temps qu'on a eu l'habitude de voir apparaître sur Internet. Vous avez un 30 secondes dédié possiblement à un message publicitaire ou d'autopromotion, parce que nous, on s'en sert aussi beaucoup ainsi pour promouvoir l'antenne en tant que telle ou d'autres podcasts. Mais en réalité, ça a un coût pour tout le monde. Pour Radio France, donc comme comme vous savez, les budgets ne sont pas en hausse. C'est évidemment du travail pour les équipes. Ce n'est pas si évident que ça, même si la question ne se pose pas en termes de modèle économique. Ben là, ça s'appelle faire des choix. Faire des choix de développement, faire des paris sur l'avenir. Et nous avons choisi effectivement d'affecter une petite partie de notre temps de travail au développement non seulement des podcasts, parce que un podcast comme ça, tout seul, une émission mise en ligne, ça ne suffit évidemment pas. On éditorialise, on le sait bien ici, on illustre, on a créé des bouquets de podcasts, c'est-à-dire qu'on est en train de créer tout un environnement, on le fait sur nos ressources
propres. Il y a les réseaux sociaux pour les promouvoir,
etc. Et c'est pas les pré-rolls qui aujourd'hui permettent de le financer, d'autant plus que la bande passante, comme vous le savez, coûte est cher. Très chère.
Dans les modèles qu'on voit émerger, donc il y a pas mal de crowdfunding, de financement participatif, il y a des modèles de financement par les marques, ce qu'on appelle brand content, par exemple Nouvelle Écoute a fait la poudre avec Guerlain, l'a fait aussi avec d'autres marques comme Chanel, Adidas,
Justement, Zoé Fès. C'est des formes complètement différentes de souvent, évidemment, de commercialisation. Vous avez parlé, alors, pour parler de Boxon, de Pascal Clark, on est sur un abonnement, on est sur des femmes qui ont mis leurs économies, qui ont fait un financement sur Ulule à 50 000 euros et qui proposent un abonnement à 90 euros par an. On est quand même sur des formules quand même très très chères, mais qui tablent sur un équilibre économique avec seulement 6 000 abonnés. Donc voilà, c'est finalement une option. La poudre, vous l'avez dit, on a, effectivement, il faut les avoir, mais si ça suffit à 6 000, voilà. On a aussi les gens comme, effectivement, Nouvelles Écoutes qui produisent de la poudre avec Lorraine Bastide, qui là font des publicités, mais c'est hyper intéressant. C'est des publicités qui sont éditorialisées, finalement. C'est Lorraine Bastide qui va vous parler de son rapport à Guerlain avant de commencer son émission.
Alors là, je peux vous dire que, par exemple, c'est pour un média et pour un journaliste,
c'est
faire
très,
ça,
très scandaleux. Nous, mais c'est
la révolution.
Mais non, mais, alors, on écoute. En termes de culture, c'est une grosse innovation, mais néanmoins, ça existe.
On écoute, justement.
I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist.
Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son corps,
dans pas d'époque, elle marque.
Son époque.
Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes? Comment habitent-elles leur corps de femme? Que pensent-elles? Écrivent-elles?
Je suis Lorraine Bastide. Et aujourd'hui, je reçois Leïla Slimani.
Moi, à mon niveau, je lutte par l'écriture. Mon arme, c'est la plume.
Voilà, Lorraine Bastide, donc, qui est donc une ancienne journaliste de la presse écrite, qui fait donc ses entretiens avec des femmes depuis 2 ans, avec des femmes. Donc, c'est un podcast qui se dit féministe. Là, en l'occurrence, c'est Leïla Slimani. C'est toujours dans un hôtel. Donc, il y a aussi un petit apport économique de l'hôtel. Et il y a effectivement cette publicité, on va dire inaugurale, qui est une publicité, disons, tout à fait subjective, où vraiment on éditorialise, en fait, la publicité. Ce qui est encore différent, par exemple, de ce qu'on fait aux États-Unis avec Serial, dont évidemment, j'espère, on va parler, où pour le coup, là, vous avez une pub avec une histoire qui est en scène, mais qui n'est pas pris dans la voix de la journaliste qui, elle, fait l'épisode. Donc on est sur, disons, pour Serial, disons, une espèce de respect plus de la pub telle qu'on l'entendait peut-être, par exemple, à la radio. On a encore d'autres modèles avec, effectivement, des studios qui fonctionnent plutôt comme des studios de production assez classiques, par exemple, en télévision, qui vont avoir des podcasts où il n'y a pas de pub, mais qui, par ailleurs, vont produire du contenu, par exemple, pour Chanel, qui vont faire des podcasts pour les défilés. Donc là, on est un peu sur la classique dichotomie entre production pour la télévision et pour ce qu'on appelle pudiquement l'institutionnel dans de nombreux studios de production. Donc vous voyez, il y a quand même une énorme variété de modèles économiques. Et effectivement, tout ça est d'autant plus intéressant qu'il faut quand même rappeler...
Ou de non-modèles économiques. Sandrine Corsini.
Oui, enfin, je voudrais réagir, parler de ça comme si c'était complètement anodin.
Pas du tout.
Bah, quand même un peu. Donc, il y a quand même un mélange des genres qui s'instaure parce qu'il n'y a pas de modèle économique.
Et de déontologie journalistique.
Voilà, un mélange des genres qui, normalement, fait l'objet d'une séparation stricte entre la partie éditoriale et la partie publicitaire, qui est quasiment, qui est
l'ADN dans l'ADN des
journalistes. Et là, sous prétexte.
Mais Lorraine Massi, je ne suis pas sûre qu'elle présente son podcast comme un podcast journalistique. Voilà, c'est aussi ça, en fait.
Non, mais
c'est
juste qu'il y a
une espèce de mélange des genres assumé.
Oui, voilà. Tout à fait. Non, mais très bien qu'elle l'assume. Mais ça prouve bien que c'est très compliqué d'avoir un modèle économique. Nous, si on faisait ça chez nous, franchement, je pense que les journalistes mettent le feu à la maison.
Voilà. Moi, c'est Frédéric Martel qui met directement le feu au studio.
C'est du brand content. Et je l'aiderai. Finalement. C'est défini comme étant du brand content.
Non, mais ce brand content,
c'est du financement par les marques.
Quelque chose qui existe déjà, qui existe dans les journaux classiques et qui pose déjà tout un tas de questions. Et par exemple, chez nous, il y a tout un tas de règles et tout un tas de réflexions autour de ça parce que ça pose des problématiques. Là, elle va très loin.
Elle va très loin.
Et c'est parce que, et je pense pas que ce soit elle, tout d'un coup, qui se réveille un matin en disant, bah tiens, je vais faire la pub pour Chanel ou pour Guerlain. C'est juste les marques lui imposent parce qu'elle n'a pas vraiment le choix.
Ah, bien sûr, mais de toute façon, la question du financement de ces podcasts, faut quand même rappeler, vous l'avez dit, pourquoi est-ce qu'on parle du renouveau du podcast, etc. Pendant très longtemps, en France, on a dit, le podcast ne pourra jamais être un marché en soi. On n'est pas aux États-Unis, on n'a pas une communauté de langue aussi importante, parce qu'il faut rappeler que les États-Unis sont quand même beaucoup plus nombreux que nous. On est un trop petit pays et ce n'est pas du tout pour plater cette maison, on a une offre radio de trop bonne qualité par rapport aux États-Unis qui a une offre radio, disons, proportionnellement de moins bonne qualité et plus réduite. Et donc en France, on a un trop petit espace qui est très bien occupé par la radio publique. On n'a pas besoin et on n'a pas l'espace pour le podcast. Il se trouve que finalement, ça finit par émerger, mais évidemment, la question du financement, elle reste cruciale.
Élise Rack.
Non, mais pour revenir au problème des messages publicitaires qui sont intégrés à la voix pour le coup, de Lorraine Bastide, par exemple. En fait, les publicitaires font ce choix-là pour garder le ton intime du podcast qui parle à l'oreille de l'auditeur, etc. Mais le gros problème, c'est que quand on écoute ce genre de message, on a l'impression que c'est la bonne copine qui dit, je te conseille d'aller acheter.
Les publicitaires, ils rêvent de ça, voilà. Dans les journaux.
Et on oublie que c'est censé être un journaliste ou une journaliste. Donc, oui, moi, voilà, je suis tout à fait d'accord. C'est problématique.
Un mot rapide lorsqu'on parle publicitaire. Publicité, brand content et donc commercialisation, y compris dans des modèles de type freemium. Quelles sont les mesures d'audience aujourd'hui? Vous travaillez sur ça, je crois, Élise Rack.
Il n'y a pas de mesure d'audience marché commune certifiée. On a quelques chiffres là depuis que Apple a mis en place un outil donc podcast analytique qui sont rassurants. On sait que les auditeurs écoutent la quasi-totalité du podcast quand ils commencent. On sait qu'ils ne sautent pas ces fameux messages publicitaires. Il y a Médiamétrie qui a fait une étude déclarative au printemps qui montre que le taux de conversion est bon. 81% des podcasts téléchargés sont écoutés. Mais pour l'instant, chacun fait sa petite tambouille dans son coin. Chacun fait des mesures autoproduites. Et c'est un petit peu embêtant quand on parle aux annonceurs, j'imagine.
Non, il faudrait inventer un podcast.
Non, mais ne me regardez pas. En l'occurrence, Médiamétrie. Médiamétrie travaille sur ça. Et nous, on travaille sur la certification à partir de données qui nous sont transmises. Non, la surprise quand même, parce que c'était une énorme surprise, c'était la question de l'écouter effective des podcasts, puisque l'argument qui nous était toujours donné, c'était oui, d'accord, les gens podcast, c'est facile, c'est gratuit, mais est-ce qu'ils écoutent? Eh bien oui, non seulement ils écoutent, comme vous le rappeliez, semble-t-il, à 82%, mais ils écoutent plus de la moitié du podcast, et c'est ça qui me permet de dire, en fait, c'est un véritable nouvel usage qui a été créé là, c'est pas simplement le dérivé d'un autre.
Previously on Serial.
You know, at first I was like, haha, you know, stop. What you don't have is audio. You don't hear the officer saying, police, break it up.
Sweetheart, don't worry. I'm not going to press charges. It doesn't matter. You're fine.
Like, you'll just be seen as an irritant now in this case.
Well, as an obstructionist. You don't want to get a reputation for that.
Not guilty.
That's fine. That's fine. But you still have to go through this.
From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial. One courthouse told week by week. I'm Sarah Koenig.
Musique qu'on connaît bien puisque c'est le générique du premier Serial, même si on en est maintenant à une nouvelle série.
Alors non, figurez-vous que c'est la troisième saison qui est sortie
tout fraîchement. Oui, mais c'est le même générique. Exactement. On retrouve la musique qui a été transformée.
Comme celle de cette émission, Frédéric, on ne les change pas.
Serial, un mot sur Serial qui a été quand même à l'origine un peu du phénomène, même si ça existait, vous l'aviez rappelé Sandrine Cassini, avant, même si ça existera après, ça a été un moment important.
Sarah Koenig, si vous voulez, elle a inventé ce système. Alors là, je voulais qu'on l'entende vraiment dans le Previously on Serial, qui montre vraiment à quel point il y a une éditorialisation de ce podcast qui ressemble véritablement à celui de la télévision. C'est donc Sarah Koenig, une journaliste qui s'intéresse de près à la justice et qui a réussi véritablement à scénariser son propos, tout en gardant évidemment des interviews. Donc la première saison, c'était sur l'enquête sur un meurtre qui avait eu lieu en 99. Il y a eu une deuxième saison, et là, dans cette troisième, elle s'interroge sur le système de justice américain avec ses travers. Donc là, par exemple, le premier épisode de cette... les premiers épisodes de cette troisième saison se penchent sur juste un truc hyper idiot, une bagarre de bar qui met en scène une jeune femme et un policier. Et elle tente de montrer comment le cas était de toute façon résolu d'avance. Et c'est effectivement très intéressant de voir la mise en scène sonore de Serial qui reprend les codes de la télé avec une efficacité absolument incroyable et aussi une incarnation, j'ai envie de dire, Sarah Koenig se met met en scène véritablement, sans pour autant, et c'est là où c'est intéressant, dans son ton, elle s'autorise une grande créativité, mais ça reste extrêmement journalistique.
Et souvent, elle dit « je », d'ailleurs. La première personne du singulier est très présente dans les podcasts sur ce sujet, Elise Rack,
Sandrine Trainer. Oui, vous parliez des podcasts qui reprennent les codes télévisés. Aux États-Unis, il n'y a pas que Serial, il y a aussi, par exemple, Gimlet Media, qui a été créé par Alex Blumberg, donc en 2014. Et dans leur podcast, il y a une fiction radiophonique, un thriller psychologique qui s'appelle Homecoming, avec des acteurs connus comme Oscar Isaac. Et là, il y a Amazon qui lance la version télévisée, la saison 1 de la série. Donc, la radio produit de la télé, etc.
Et la télé produit de la radio, etc. Sandrine Trainer.
Avec Serial, on est au cœur du savoir-faire narratif américain, parce que non seulement la première saison qui a été l'explosion de ce gigantesque succès dont on peut dire d'ailleurs qu'il ne s'est pas fait tout seul, c'est pas simplement NPR en l'occurrence qui a promu le podcast, mais Apple notamment, les GAFAM sont en fait extrêmement extrêmement friands évidemment des très belles réalisations de contenu, parce que c'est très bien d'avoir des technologies et des algorithmes, mais si on n'a pas les bonnes histoires, on ne peut rien en faire. Donc ils ont beaucoup aidé. Mais Serial, ce qu'il faut dire, c'est que c'est devenu un phénomène de société. C'est-à-dire qu'elle est partie d'une enquête ancienne et elle est allée jusqu'à faire rouvrir l'enquête. Et donc, en fait, et ce qui a abouti effectivement à une nouvelle étape du procès, donc ça a été un phénomène de storytelling performatif, si je peux utiliser ce terme-là.
Alors venons-en aux effets de consommation et les pratiques que ça engendre. D'abord, peut-être première question, on s'aperçoit que si la radio est un média écouté par tout le monde, mais avec une participation, disons, des publics un peu plus âgés, fortes, traditionnels, la consommation des podcasts est très jeune, avec notamment des classes d'âge de 15 à 34 ans qui reviennent d'une certaine manière à la radio, on pourrait presque dire, grâce aux podcasts. C'est quelque chose que vous avez remarqué les uns les autres, Elise Rack ?
Oui, c'est quelque chose que remarque finalement les éditeurs de podcasts natifs eux-mêmes. Hein. Je crois que Binge Audio, leur chiffre, c'est 75% des téléchargeurs ont moins de 35 ans, donc c'est quand même assez énorme. Et puis, c'est vrai que moi, par exemple, je regardais sur les réseaux sociaux avant les vacances, là, tous les gens je peux le dire, je suis assez jeune, de ma tranche d'âge.
Ah oui.
Tout le monde disait, oh là là, je pars en vacances, je sais pas quoi écouter, donnez-moi des conseils de podcast. C'est plus donnez-moi des conseils de lecture, hein.
C'est pas des séries télé.
Aidez-moi
pas...
dans toute cette offre à choisir. Donc c'est pour ça que la recommandation.
Sandrine Trainer pour Radio France, c'est aussi un moyen de rajeunir une audience.
Je sais pas si je le placerais comme ça. En tout cas, c'est le moyen d'une part d'offrir aux auditeurs, puisque ça a commencé comme ça, très honnêtement. On s'est dit comment est-ce qu'on peut, par le podcast, offrir un nouveau service à nos auditeurs. Et en l'occurrence, nos podcasteurs sont plus âgés. Moi, je rencontre aussi, comme vous, des gens l'été qui me racontent comment aujourd'hui ils ne font plus qu'écouter France Culture au podcast. Il s'agit évidemment de gens encore très actifs et qui peuvent pas écouter certaines émissions à l'heure où elles sont diffusées, oui, bien sûr. Mais dans un second temps, on voit bien que ça permet à des gens qui ne nous connaissent pas, mais qui s'intéressent à la philo, à l'histoire ou à la science, de nous découvrir uniquement par nos podcasts de nos émissions scientifiques. Et à partir de là, certains vont aller, et c'est un des enjeux du podcast, vont aller, grâce à des préconisations, écouter d'autres podcasts, et peut-être, et je crois que ça commence à être effectivement le cas, viennent ensuite vers l'antenne. Mais au fond, on voit des gens arriver vers nos émissions qui n'ont pas la moindre idée en réalité de ce que c'est que France Culture, qui savent pas qu'il y a une matinale, qu'il y a de l'info, etc., qui pensent qu'on fait de la science.
On peut d'ailleurs écouter un podcast sans savoir d'une certaine manière que c'est France Culture,
tout à fait.
Un certain nombre de choses. Sandrine Cassini.
Oui, en fait, finalement, il y a une étude de Médiamétrie assez intéressante qui date d'il y a quelques mois, mais qui doit être, je pense, encore valable. Ils disent qu'il y a en gros 4 millions de personnes en France qui écoutent des podcasts, et quand même, on s'aperçoit que finalement, les hommes sont assez représentés, enfin ça reste un phénomène assez parisien, puisque les Parisiens sont très représentés, les catégories socio-professionnelles supérieures aussi. Donc je pense que peut-être pour les podcasts natifs, effectivement, ça attire des jeunes, mais ça a l'air d'être une communauté qui est beaucoup plus petite que la masse des podcasteurs, entre guillemets, qui reste hommes, CSP+, parisiens.
Il faut inventer le podcast de proximité.
Encore. Voilà. Peut-être. Alors, où est-ce qu'on va, les évolutions à venir du podcast pour terminer cette émission? What's next, comme on dit en anglais, le podcast, est-ce que c'est un phénomène de mode, un phénomène de masse, un phénomène durable, les uns les autres? Il y a plein d'évolutions, les enceintes connectées, les assistants vocaux, la voiture connectée, les agrégateurs de podcasts. Est-ce que tout ça nous amène vers un nouveau, de nouvelles évolutions? Sandrine Cassini?
Je pense que la question, c'est est-ce que... Oui, alors déjà, normalement, enfin, s'il y a toute cette effervescence, c'est aussi parce qu'on pense que ces assistants vocaux, les voitures, etc., cassent ces nouvelles barrières technologiques, comme je disais tout à l'heure, donc va amener les gens à se diriger ailleurs que vers les radios traditionnelles. Je pense que c'est ça un peu le pari de ces gens qui viennent sur le podcast. Donc la question qui se pose,
des sociétés,
à mon avis,
des sociétés, oui, surtout nouvelles. Ouais.
Tout à fait. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que le podcast va bouleverser la radio traditionnelle, un peu à la manière dont YouTube, Netflix, etc. ont bouleversé les télévisions traditionnelles. Alors oui, moi je pense que oui, mais c'est pas une révolution qui va venir comme ça en 24 heures, quoi. Enfin, vous voyez, ça fait 10 ans que les podcasts existent. On voit aujourd'hui qu'ils entraînent de nouvelles écoutes. Mais tout ça prendra du temps.
Évidemment, beaucoup de questions. On a parlé tout à l'heure de la question de l'audience. Évidemment, la question de savoir aujourd'hui sur quoi on écoute des podcasts. Initialement, vous l'avez dit, il y a Apple, il y a évidemment des applications, l'application de Radio France. Google devait lancer un service qu'il n'a pas lancé finalement.
Il existe malgré tout sur les téléphones.
Podcasts, ouais. Sur les podcasts, mais qui n'est pas aussi, disons, massif. On a vu en l'occurrence entre-temps que, évidemment, des plateformes comme Spotify et comme Deezer avaient investi ce terrain-là. Il y a un monde de podcasts qu'on peut aujourd'hui écouter. NPR est audible sur Spotify. C'est, je crois, pas le cas de Radio France. Mais en l'occurrence, il y a cette question de où on écoute. Et puis surtout, il y a la question du podcast en lui-même. Est-ce qu'on parle de podcast ou est-ce qu'on parle de réécoute aujourd'hui? Parce qu'il faut le rappeler, ces fameuses accusations quand on disait à l'époque, oui, mais tous ces podcasts, ils s'accumulent sur des flux RSS dans votre téléphone, vous les écoutez jamais. Il faut rappeler qu'on a tous des téléphones qui ont très peu de mémoire. Donc en général, je pense qu'on garde essentiellement les podcasts qu'on écoute. De plus en plus, on va écouter à la réécoute, c'est-à-dire plutôt en streaming. C'est un peu ce qui s'est passé aussi avec la vidéo. La question évidemment des enceintes est cruciale et la question qui reste primordiale, c'est la question de la curation. Parce que le podcast aujourd'hui, on l'écoute souvent par bouche à oreille ou par habitude. Il est très difficile de partager des podcasts sur les réseaux sociaux, donc c'est pas du tout comme la vidéo, quelque chose qui peut se viraliser très vite. La plupart du temps, on se rend compte, en tout cas moi personnellement, là on a que des expériences empiriques à donner, c'est souvent du bouche à oreille, c'est souvent des conseils et on manque aujourd'hui souvent, en dehors d'offres très bien cataloguées, très bien référencées comme celles de Radio France, qui sont aussi des radios, à la fois de curation, c'est très très difficile de faire des algorithmes pour préconiser du podcast, parce que le podcast, il faut l'écouter, c'est très difficile de référencer, d'avoir des mots-clés, des bons mots-clés. Donc on est sur des enjeux à la fois techniques et éditoriaux, qui d'après moi, selon qu'ils seront pris en charge par des acteurs qui en ont les moyens et qui sont ambitieux, peuvent être tout à fait déterminants, ou au contraire contribuer à un éclatement de cette fameuse bulle.
Elisarac.
Je pense qu'on verra la différence quand il y aura vraiment un acteur dominant au niveau des agrégateurs, un agrégateur qui sera suivi par tout le monde, où on se dira c'est là que je vais chercher tous mes podcasts. Il n'y a pas encore vraiment ça, j'ai l'impression.
C'est le pari de Mathieu Gallet.
Et donc ça, là, il va peut-être y avoir des morts, comme on dit.
Et est-ce que c'est pas Radio France de faire ça, par exemple, en France?
Oui, j'allais dire que Zoé a posé un certain nombre d'enjeux. Je n'y reviens pas. Je pense néanmoins que oui, le podcast va transformer en partie les usages. Il les a déjà transformés du reste, mais simplement la radio a été capable de se transformer aussi vite, voire presque plus vite, et de devancer l'évolution. Et donc, dans 2 ans, dans 5 ans, de toute façon, moi, à titre personnel, je n'ai pas peur. Je sais produire des contenus sonores de qualité, pérennes, qui sont un véritable atout et service pour l'auditeur, et je sais que le nom que nous portons tous ensemble ici sera présent encore. Donc je crois qu'en France, la radio est en fait tellement puissante en termes de contenu qu'elle restera leader, ce qui n'empêchera pas évidemment les entreprises que vous avez citées, et c'est heureux de pouvoir développer des offres à côté, mais la radio restera au centre.
Oui, la télé traditionnelle est restée leader, aujourd'hui elle est encore très puissante. Les grandes chaînes, TF1, M6, etc. sont très puissantes. Néanmoins, elles ont quand même été bouleversées. Et dans leur modèle économique, et dans les contenus qu'elles proposent aussi.
C'est vrai, mais l'enjeu financier n'est pas le même pour les entrants.
Et les coûts de production non plus. Ouais.
Donc, effectivement, à la télévision, il y avait beaucoup d'argent à gagner, et en plus, la télévision est essentiellement produite par des sociétés de production elles-mêmes privées. La radio, elle produit en interne. Ce sont des modèles qui n'ont rien à voir, je crois.
En matière de voitures connectées, d'assistants vocaux, d'enceintes connectées, revenons un petit peu sur ça, ou même d'AirPods, puisque ça a l'air de rien, mais le fait d'avoir des écouteurs qui n'ont même plus de fil, etc., ça augmente les capacités d'écoute permanente, dans les transports, etc., avec beaucoup plus de facilité pour écouter du son. Comment vous voyez ces évolutions à venir ?
Quand on parle aux acteurs du marché, ils disent que c'est pas des podcasts. Ils disent qu'ils produisent pas des podcasts, mais plutôt des applications pour les assistants vocaux, etc. Et ce qu'on peut voir, c'est que bon, il y a une course au son pour la presse écrite hein, cet été et l'année dernière, il y avait des annonces partout d'offres d'emploi. Nous recherchons des flashmen pour faire des flashs d'actu un peu partout aux Parisiens à 20 minutes. Donc là, la presse écrite est en train de s'organiser pour pas rester à la traîne, quoi.
Sandrine Cassini.
Oui, ben ça, c'est, je pense, c'est peut-être une opportunité. C'est-à-dire, plutôt que brancher sa radio sur France Culture ou sur France Inter ou RTL, l'enceinte connectée, ça remet un peu les compteurs à zéro. En tout cas, c'est peut-être le pari de certains.
C'est elle qui décide, vous voulez dire ?
Ben, disons qu'on n'a pas. Non, mais c'est tout bête, mais on n'a pas à la régler. S'ils font des partenariats, ils peuvent venir à l'auditeur de manière différente. Vous voyez, c'est pas évident sur une radio classique. Donc, c'est ça leur pari.
Et quant aux assistants vocaux, on lui dit j'aimerais écouter Michel Foucault et tout ça vous donne France Culture ou RTL, peut-être pas RTL. Mais
non, mais tout à fait, ça remet.
Les grosses têtes, en tout cas.
Oui, tout à fait. On dit je voudrais écouter telle musique, ils vous lancent telle musique. Enfin, c'est quand même très nouveau comme accès.
Mais encore faut-il, et là, on revient quand même à la question du référencement, qui reste quand même la question cruciale. Évidemment, quand vous allez dire à votre enceinte connectée, je voudrais du Michel Foucault, je voudrais que tu mettes une émission de science, il faudra que Amazon, si c'est Alexa ou d'autres, ait bien référencé une bonne émission sur Michel Foucault. Et ça, c'est pas gagné du tout.
Quand on voit la progression importante de sites comme Spotify, d'outils comme Deezer, Qobuz, on peut parler d'Apple Music, etc. On comprend pas pourquoi, même si les podcasts existent déjà, c'est le cas de Spotify, pourquoi ils ont pas beaucoup plus investi là-dedans. Au fond, on pourrait penser que parce que toute la question va être celle de la distribution, qui va distribuer ces podcasts à l'avenir, on peut penser que c'est sur ces plateformes aussi que ça se fera, non ?
Là, peut-être une petite nuance, c'est-à-dire que Spotify, ces plateformes que vous citez, sont des plateformes payantes pour les utilisateurs. La radio, aujourd'hui, est essentiellement gratuite. Alors, dans les modèles, dans les business models qu'on n'a pas cités, il y a certains, aujourd'hui, producteurs de podcasts qui veulent faire quelque chose de payant pour l'utilisateur. Et c'est, comme on sait, faire payer l'utilisateur, c'est quelque chose de très compliqué. Donc, est-ce qu'on va arriver demain à faire payer les utilisateurs pour du podcast ? Je pense que la question quand même se pose. Spotify, etc. Aujourd'hui, leur principal souci, c'était de gagner des abonnés. Donc, à ce titre-là, c'est pas très étonnant qu'ils aient pas plus massivement investi dans les podcasts. Ils ont déjà, c'est des économies assez fragiles. Hein. Ces plateformes, elles sont pas, c'est pas les GAFA, elles n'ont pas de l'argent à déverser partout. Elles ont déjà beaucoup de droits à reverser. Donc moi, ça m'étonne pas tellement qu'elles se
sont... C'est la question de savoir si on va voir apparaître effectivement des Netflix du podcast.
Et oui, comment on fait pour les financer ?
Est-ce qu'il y a un marché pour ça ?
En effet, l'un des modèles possibles, comme les États-Unis en a vu émerger, c'est celui de la syndication, comme c'est le cas aujourd'hui, ne serait-ce que pour la radio, tout simplement, aux États-Unis.
C'est le cas de Serial, c'est le cas de Democracy Now, etc.
Peut-être on pourrait avoir ce genre de gros conglomérat, si on finit par dire ça, d'émissions ou de studios de podcast en France. Mais là encore, la petite limite qu'on pourrait poser à ça, c'est qu'effectivement, la France, évidemment, il y a la francophonie, mais reste un marché en termes de langue qui est un peu limité, et que là encore, on a quand même une radio qui reste, une radio de qualité qui reste très forte en France, ce qui, encore une fois, n'est pas le cas aux États-Unis.
Voilà, merci infiniment à toutes les trois. C'était d'ailleurs un cast 100% féminin dans Soft Power ce soir. Pour aller plus loin sur les podcasts, les références de cette émission ce soir, articles et livres à consulter ou à lire, à retrouver sur la page de Soft Power sur le site de France Culture et sur Twitter au mot-clé Soft Power. Soft Power, ça continue dans un instant. La seconde partie de l'émission avec à 20h10 le Club de la Presse Numérique. Nous nous demanderons si l'économie numérique a perdu ses valeurs, point d'interrogation, et nous en débattrons avec Séverin Naudet, chroniqueur à BFM Business et l'un des dirigeants de la société Amaris, ainsi que Sandrine Cassini, qui reste avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Et dans un instant à 20h, Zoé Sfès, votre invité innovation.
Il s'appelle Thibaut Saint-Maurice, il est le cofondateur avec Pierre Cerisier du Paris Podcast Festival qui aura lieu la semaine prochaine à la Gaîté Lyrique. C'est la première édition de ce festival entièrement dédié au podcast natif aussi.
Vous pouvez vous abonner au podcast, justement, le podcast de Soft Power disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Tout ça à suivre après Madi la nuit sur France Culture. Écoutez, Madi la nuit, extrait du nouvel album Contre-temps de Flavien Berger, sorti fin septembre.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Sfès.
Bonsoir Thibaut Saint-Maurice.
Bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes philosophe, vous êtes chroniqueur pour France Inter, mais vous êtes surtout, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir, vous êtes l'un des deux cofondateurs avec Pierre Cerisier du Paris Podcast Festival. Paris Podcast Festival dont France Culture est partenaire, qui aura lieu le week-end prochain du 19 donc au 21 octobre. C'est à la Gaîté Lyrique à Paris, lieu emblématique des questions sur le numérique, évidemment, s'il en est. C'est la première édition de ce festival, donc c'est un festival qui se crée. Pourquoi est-ce qu'on est en 2018 et vous avez eu ce désir de créer ce festival? Pourquoi d'ailleurs n'y en avait-il pas avant vous?
C'est une bonne question. C'est une bonne question. Pourquoi il n'y en avait pas? Alors, c'est des festivals qui existent aux États-Unis, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, aux États-Unis, la culture ou la pratique du podcast est déjà un peu plus avancée. Il y a un festival de podcast à Londres depuis 2 ans et on a identifié le fait qu'il n'y en avait pas à Paris. Alors, il existe en France des communautés qui déjà avaient l'habitude de se retrouver autour de podcasts, une arène, et à Paris, il y avait un événement qui s'appelait MP3 Paris.
Il y a le festival Longueur d'onde
autour
aussi.
De la fiction. Et il y a le festival Longueur d'onde, qui est le festival de la radio, dans lequel il y a eu quelques incursions autour du podcast et du podcast natif. Donc nous, notre idée, ça a été de dire, on va consacrer un événement sur un format assez classique de festival que le grand public connaît bien, mais on va consacrer un événement à un type de production qui nous paraît extrêmement intéressant et qui nous paraît en fait receler un potentiel de création, d'histoire et d'expérience formidable qu'on appelle le podcast natif. Voilà, le podcast natif, c'est pas un podcast d'une émission qu'on peut réécouter. Le podcast natif, c'est un contenu qui a été produit, écrit et diffusé uniquement en ligne pour une consommation, une écoute en ligne. Et on se rend compte en fait que ça ouvre des possibilités de récits et des propositions d'expérience tout à fait singulières. Voilà, donc c'est ça. On consacre un événement à ces nouveaux contenus et à la communauté de gens qui créent dans ces nouveaux contenus et qui les animent.
Alors justement, pourquoi est-ce qu'il y a une nécessité aussi pour ces contenus-là qui sont très particuliers, donc vous l'avez dit, qui sont détachés d'institutions comme la radio par exemple, d'avoir ce festival? J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'attentes du côté à la fois des auditeurs et des gens qui créent, parce que on l'a dit, souvent ça se fait par bouche à oreille, c'est des acteurs extrêmement divers qui parfois ne se connaissent même pas entre eux. C'est quoi la nature justement de ce paysage parmi les gens qui vont participer? Je sais qu'il y a des ateliers, des tables rondes, des rencontres. Il y aura visiblement aussi des podcasts que vous allez enregistrer pendant ce week-end. Vous pouvez me raconter ça?
Oui, absolument. Alors en fait, l'idée, c'est de faire découvrir au grand public ce monde du podcast natif, au grand public qui est simplement curieux, qui en a entendu parler, mais qui ne connaît pas encore très bien comment ça fonctionne, tout en permettant à ceux qui sont déjà passionnés, qui sont déjà des grands consommateurs de podcasts natifs, ou qui sont eux-mêmes des podcasteurs, tout en leur donnant aussi de quoi s'y retrouver. Alors on fait une proposition, on fait plusieurs propositions sur ces trois après-midi, des formats classiques de masterclass, de rencontres avec des podcasteurs, c'est un peu comme dédicace au Salon du Livre, où on peut rencontrer son auteur favori, là on va pouvoir venir rencontrer son podcasteur favori, et surtout c'est amusant, mais mettre un visage sur une voix, parce qu'en fait, on connaît la voix avant de connaître le visage, lui poser des questions, etc. On va aussi avoir donc des enregistrements publics, voir comment on fait un podcast, un podcast en train de se faire. Et puis, on va avoir toute une série d'écoutes collectives. On va proposer une expérience assez singulière aux gens. On va leur proposer simplement de s'installer dans une salle, un auditorium, et de baisser la lumière, parfois de mettre des casques, parce qu'il y a des contenus qui sont ce qu'on appelle en son 3D,
en son binaural,
avec une spatialisation du son, une profondeur du son qui fait qu'on est plongé dans le son. Donc parfois on mettra des casques, parfois on n'en mettra pas, et on va écouter là, le meilleur de la saison à venir, en tout cas une petite sélection de la saison de podcast à venir 2018-2019 avec des nouveautés, des inédits, des avant-premières, et on va proposer aux gens en fait une sorte de parcours sur tout ce qu'on peut faire aujourd'hui et qui s'adresse directement à nos oreilles.
Et alors ce que vous faites qui est très intéressant et qui fait de vous un festival comme un festival de cinéma, c'est que vous avez un prix, évidemment, un prix de ce festival. Il y a différents prix et notamment un prix du public avec une compétition officielle. Est-ce que vous pouvez me parler justement de cette idée de compétition officielle? On l'a dit, il y a des acteurs très différents, de poids très différents. On a aussi bien France Culture qui produit du podcast natif, son entraîneur d'ailleurs sera votre invité, que des, on va le dire très vulgairement, des petits mecs dans une salle de bain, il y en a encore qui le font. Dans cette compétition officielle, vous avez pris qui pouvait participer et quels ont été les critères de sélection de ces podcasts natifs de cette compétition officielle? Je crois qu'il y a 25 élus.
Exactement. Alors c'est ça qui a été absolument passionnant. C'est précisément de s'appuyer sur cette grande hétérogénéité des opérateurs et des acteurs du podcast aujourd'hui. Et donc la compétition, ça a été une occasion de dire on peut tous participer parce qu'on est tous convaincus de vouloir faire du bien aux oreilles des autres, quoi, de vouloir leur raconter des histoires ou de leur proposer des voyages sonores assez intéressants. Et donc effectivement, on a ouvert une compétition entre le 1er août et le 10 septembre. Donc on était au cœur de l'été. Et pourtant, on a reçu plus de 250 candidatures.
Ah oui, donc c'est conséquent. Même en plein cœur de l'été, sur un seul mois, sur un festival qui fait sa première édition.
Exactement, c'est conséquent. Ouais.
C'est quoi le format? Quel était le format que vous demandiez?
En fait, on demandait aux gens simplement de nous soumettre un épisode représentatif de leur podcast. Dans le cas où les épisodes faisaient moins de 10 minutes, ils pouvaient en mettre deux. Mais il n'y avait pas de limite de durée. Pour la petite histoire, on a eu un épisode qui durait 3h59 dans la compétition. Et il y avait s'il y avait deux autres critères, on pouvait candidater dans des catégories, catégorie fiction, catégorie documentaire, non-fiction ou catégorie conversation. Et puis, on a ouvert aussi une catégorie ouverte à tous les auteurs de podcasts, que nous, on les appelle des auteurs. Donc, à tous les auteurs de podcasts de nationalité étrangère, qui produisent en français, on a ouvert une catégorie francophone. Voilà. Et donc, en fait, on a reçu au total plus de 250 candidatures. À partir de là, c'était ouvert à tous et on a eu des contenus très, très différents. Mmh. On a eu ce qu'on pourrait appeler des unitaires, c'est-à-dire juste une production qui n'est pas dans un fil de podcast, mais qui s'intègre à une ligne éditoriale. On a eu des épisodes de podcasts produits par des grandes chaînes de radio, notamment France Culture, mais pas que. On a eu aussi des studios de podcasts indépendants, dont on a entendu parler tout à l'heure, qui se sont lancés, Arte Radio bien sûr aussi. Et puis, tout un tas de podcasteurs indépendants, alors qui ne sont pas que des petits mecs dans leur cuisine, parce que information intéressante, c'est une production qui est très 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 majoritairement féminine. Sur, on n'a pas fait une statistique précise, mais globalement sur les 250 candidatures qu'on a reçues, on est sur un rapport 70-30, c'est-à-dire 70% d'auteurs femmes et 30% d'auteurs hommes.
Alors qu'on a dit que justement c'était les hommes qui écoutaient plus de podcasts et qui étaient plutôt des CSP+.
Alors bon, les études sont encore émergentes hein, sur le cas, sur ce sujet. Voilà, donc cette grande compétition était ouverte à tous, elle était gratuite, il n'y avait pas de limite de temps ou de statut, il ne fallait pas montrer une patte blanche quelconque pour pouvoir participer.
Donne une sélection du coup très hétéroclite, j'imagine.
Exactement, on a un comité de sélection qui a retenu 25 podcasts nommés dans 5 catégories, le podcast de fiction, donc le podcast documentaire, le podcast de conversation, la création sonore et musicale dans un podcast et le podcast francophone.
Et durant un prix du public.
Et parmi ces 25 podcasts nommés, effectivement, le public va être invité à voter. Donc, il y a une plateforme de vote en ligne pour désigner son podcast préféré.
Voilà. Et alors, je termine avec cette question qui rejoint celle, finalement, qui a été la question serpent de mer de notre émission, qui est à la fois le fait que ce prix est doté de sommes d'argent assez conséquentes et qui rejoint la question du modèle économique. Ça fait partie, évidemment, des questions que vous allez interroger pendant les tables rondes de ce premier festival. De quel ordre il est, ce prix du festival? Qui le finance? Et de manière générale, comment est-ce que ce festival a pour ambition de contribuer aussi à, disons, un raffermissement, à une solidité économique de ce secteur qui est à la fois très créatif et à la fois très fragile?
Alors, trois questions que vous posez, trois réponses. La première, donc les prix sont dotés pour chacun à hauteur de 3 000 euros. Il y a 6 prix, ça représente un total de 18 000 euros. C'est un geste extrêmement fort qu'on a choisi de faire pour valoriser ces auteurs, leur création et, vous savez, dire aux gens, voilà, on s'engage et on soutient la création à venir. Qui dote les prix? Des partenaires institutionnels et des partenaires privés. Parmi les partenaires institutionnels, on a les sociétés d'auteurs, par exemple, la SCAM, la SACD, la SACEM, qui sont présents aux côtés de leurs nouveaux auteurs, des nouvelles générations d'auteurs, et qui, là encore, témoignent de leur conviction sur l'audio. On a des partenaires privés, comme, par exemple, Audible ou Wix.com, qui sont convaincus aussi de cette nouvelle culture de l'écoute. Et puis, comment est-ce qu'on finance une première édition et comment est-ce qu'on s'inscrit dans cette réflexion sur la monétisation du podcast? Eh bien, on la finance avec des partenaires qui sont convaincus. Hein, c'est pas que des intérêts commerciaux et du sponsoring et de la pub. C'est des gens qui sont convaincus que ce format, cette culture de l'écoute, ce podcast natif permet de construire une expérience singulière avec les auditeurs. Et c'est ça qu'on va essayer de réfléchir ensemble pendant ces 3 jours de festival.
Ces 3 jours de festival, c'est du 19 au 21 octobre. C'est à la Gaîté Lyrique à Paris. C'est la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup Thibaut de Saint-Maurice d'avoir
venez nombreux. Avec
nous. Merci infiniment à vous deux, Zoé Sfez.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
20h10, le club de la presse numérique. Le sujet de ce soir, l'économie numérique, a-t-elle perdu ses valeurs avec un point d'interrogation? Et nous en débattons avec Séverin Naudet, qui est blogueur, qu'on retrouve d'ailleurs dans Tech & Co sur BFM Business, et l'un des dirigeants de la société Amaris. Et vous, Sandrine Cassini, journaliste au Monde, qui êtes restée depuis le début de cette émission. Le développement d'Internet marque l'avènement d'une nouvelle économie qui s'est développée depuis le milieu ou la fin des années 90. À l'origine, la culture qui nourrissait cette innovation, l'esprit geek et contre-culturel californien, un peu hippie, un peu comme ça, veggie déjà, visait à bâtir un monde meilleur. « Don't be evil », clamaient les fondateurs de Google. Les promesses étaient grandes, les aspirations humanistes plus grandes encore. Quelques décennies plus tard, et quelques milliards d'ordinateurs en plus, les promesses de la Silicon Valley sont-elles au rendez-vous? Un meilleur partage de la valeur a-t-elle eu lieu, par exemple avec les fintech ou les sites participatifs? La démocratie est-elle plus forte entre civic tech d'un côté et fake news de l'autre? Notre vie privée est-elle mieux protégée? Autant de questions qui se posent. Et nous allons nous demander, cette économie numérique a-t-elle perdu ses valeurs? Séverin Naudet, pour commencer.
Non, je crois pas qu'elle ait perdu ses valeurs. Je pense que elles sont encore très présentes et je pense qu'il y a encore une aspiration extrêmement forte portée par la génération des millénials qui a été engendrée par la révolution technologique du digital. Je pense aussi que ce qui a été délivré est à la hauteur d'une partie des promesses. Je pense que la société a été profondément transformée. On vivait dans un, particulièrement en Europe et dans le monde occidental, dans une société
centralisée, hiérarchisée,
statutaire, du top-down. Et ça a changé. On est rentré dans une société horizontale, communautaire, de la conversation. Donc il y a eu des changements qui sont profonds dans une économie de l'usage. Et ces changements, on n'est pas arrivé au bout. Pour autant, le débat qui a lieu aujourd'hui sur notamment une économie concentrée, monopolistique, etc. Alors d'abord, il y a un débat sémantique parce que en réalité, est-ce que c'est une économie de plusieurs oligopoles ou une économie de monopole? Il y aurait vraiment de matière à discuter. Et puis par ailleurs, moi je trouve ça un peu amusant en fait, parce qu'on a regardé avec commisération pendant des années, pendant 10 ans, cette économie grandir et les baby-boomers
n'y croyaient pas.
Du haut de leurs vieilles industrie se gossait en disant cette économie des jeunes, et ils le font encore d'ailleurs pour certains. Et puis tout d'un coup, quand ça percute
leur modèle économique,
modèle économique d'un côté pour les industriels et leurs intérêts politiques pour les politiques de l'autre, qui voient tout d'un coup leur campagne changer, ils se rendent compte avec 10 ans de retard qu'il s'est passé quelque chose. Bah oui, il s'est passé quelque chose, et donc on a laissé une avance extraordinaire en termes d'innovation à tous ces acteurs, et donc ils ont pris la place. Et puis après, il y a un certain nombre de facteurs. Je peux donner 2 exemples. On n'a pas formé les talents, donc il y a une raréfaction des talents aujourd'hui. Et quand on veut créer aujourd'hui un nouveau modèle, une entreprise, quand on a une idée, on trouve pas les gens pour le faire parce qu'ils sont tous chez ces acteurs, parce qu'on n'a pas suffisamment formé de gens, et on a continué à former des gens à des métiers qui n'existent plus ou qui vont disparaître. Il y a phénomène dont on a beaucoup parlé, c'est cette envie d'une génération avec qui, on en reviendra sur le sujet tout à l'heure, on refusait de partager la valeur dans l'ancienne économie, qui a dit moi j'ai envie de gagner des sous, et qui a monté des modèles très innovants et qui les ont revendus très vite à ces acteurs-là pour faire la culbute exactement. Et donc il y a beaucoup de gens qui se sont vendus à Facebook, il y a beaucoup de gens qui se sont vendus à Google, qui ont acheté beaucoup de, à la fois de talent d'un côté et beaucoup d'innovation de l'autre.
Sandrine Cassini.
Oui, alors le sujet est vaste. Peut-être juste pour rebondir.
Il est assez optimiste, finalement, c'est vrai.
Oui, il est assez équilibré, je trouve. Je partage assez ce point de vue. Peut-être juste pour donner juste 2 ou 3 chiffres qui mesurent un peu ce numérique. Effectivement, il est dominé par quelques grands acteurs. Si on additionne la valorisation d'Amazon, Google, Facebook et Apple aujourd'hui, on est à 3300 milliards de dollars. Donc, juste pour mémoire, le PIB de la France, c'est en gros 2000 milliards d'euros.
Donc, c'est plus que le PIB de la France.
C'est plus que le PIB de la France. C'est beaucoup plus que le PIB de la France. Donc, c'est quand même... ça dit quelque chose. Alors, c'est une comparaison qui est...
Qui vaut,
mais qui dit quelque chose sur la puissance de ces acteurs. Et alors... Ils sont pas tout seuls. Aujourd'hui, on voit que la Chine aussi prend beaucoup d'importance. On les voit moins chez nous. On s'en plaint moins. On se plaint beaucoup de la Silicon Valley. Mais les Chinois sont très puissants. Ils ont réussi à développer des géants de manière différente. C'est-à-dire que la Chine est restée quand même à son propre modèle fermé. Donc, elle n'a pas laissé entrer les Google, Facebook, etc. qui, eux, rêvent évidemment de prendre une partie de ce marché. Et du coup, ils ont leur Alibaba, Baidu, Xiaomi, Tencent qui représentent 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Donc, c'est vraiment... Et nous, la petite Europe, on est un peu coincés aujourd'hui entre ces deux mastodontes. Et on ne sait pas quoi faire face à ça. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose...
Qu'est-ce qui explique cette concentration
La concentration, il y a plusieurs phénomènes. Déjà, la Silicon Valley, enfin les États-Unis, ils ont une compétence, ils ont 2 compétences qu'on n'a pas chez nous, mais parce que nous, on en a d'autres. Ils sont très bons en logiciel. Historiquement,
en software,
en logiciel. Or, c'est le logiciel aujourd'hui qui domine le monde. Ce sont des entreprises de logiciel, c'est pas des entreprises de pub. Enfin, si, parce qu'ils gagnent de l'argent grâce à la pub. Mais leur compétence, le cœur, c'est le logiciel. Et ça, c'est une compétence américaine. Nous, on est très fort en mode, par exemple, la France. Donc, on a ce rattrapage à effectuer et on le fait. Mais évidemment, quand des gens ont des années d'expérience, ils ont...
Deuxième compétence qu'ils ont, vous en citiez deux.
C'est le capital risque. C'est-à-dire qu'ils ont cette culture du capital risque. Il y a, dans la Silicon Valley, des générations de capital risqueurs, c'est-à-dire des gens qui savent investir, qui savent prendre du risque.
Perdre de l'argent lorsqu'il le faut.
Perdre de l'argent, ouais. Et ils sont capital risqueurs de père en fils. Et ça a alimenté plus l'État américain qui a aussi financé des innovations.
Les universités, un mélange très...
Voilà, ce mélange a créé la Silicon Valley. Et ça, c'est quelque chose qui s'est joué il y a 30, 40 ans. Donc c'est compliqué à rattraper.
Oui, dans le prolongement de ce que dit Sandrine, elle a parfaitement raison. Il y a un sujet, c'est la taille du marché intérieur. Hein. On a raté, il y a quelques années, l'idée européenne. Si on avait su construire un marché intérieur qui était en état d'être compétitif, concurrent du marché américain et du marché chinois, on n'aurait pas les mêmes problèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, on le voit bien dans ce que dit Sandrine, elle dit on est fort en mode en France. Bah oui, d'accord.
Non, on est fort en mode dans le monde.
En réalité, d'abord, c'est pas tout à fait les mêmes modèles économiques,
c'est
que la taille du marché intérieur, quand on est les États-Unis, ça compte énormément.
Oui, 300 millions d'habitants, 15 fois de superficie plus grande que la France, 5 fois plus d'habitants.
Et la Chine, c'est pareil, quand on démarre un modèle. On a une vitesse d'accélération qui est phénoménale. Et puis par ailleurs, c'est ce que Sandrine disait aussi, c'est qu'il faut pas oublier que les Américains ont subventionné de manière colossale leur innovation et continuent à subventionner les acteurs de l'économie numérique aux États-Unis dans un dumping mondial qui est extraordinaire. Avec c'est adossé effectivement à cette capacité de capital risque, où on sait que les Américains sont capables d'investir 10, 20, 50 fois plus au démarrage d'un modèle.
Oui, c'est une compétence, c'est-à-dire que ils l'ont fait dans les années 50, ils ont pris des gros bouillons, et puis les petits-fils, etc., continuent, et aujourd'hui, ils savent faire, c'est un savoir-faire. Aujourd'hui, on n'a pas cette génération-là. Enfin, en tout cas... Voilà, ça, on met du temps à la mettre en place.
Alors, dans la matrice que j'évoquais en début de ce segment, on évoquait ce côté un peu hippie, ce côté green. On sait que la Silicon Valley, c'était aussi une histoire qui est sur les campus de Berkeley en 68. Ça commence aussi avec le développement des autoroutes de Eisenhower. C'est un phénomène qui, entre la Beat Generation qui va à San Francisco, le quartier du Castro, etc. C'est cette innovation qui va se faire dans un mélange très original, à la fois financier, contre-culturel, avec également beaucoup d'étrangers et de diversité, qui promet, cette promesse, c'est un capitalisme humanisé, c'est une société qui ne soit pas simplement de marché, mais qui soit aussi une société du partage, et notamment du partage de la valeur. Et là, on a l'impression que cette promesse aussi, c'est vrai, Nodé, n'a pas été respectée totalement.
Là, moi, je pense qu'elle a été tenue, comme je disais tout à l'heure, en grande partie. La question qu'on peut se poser, elle a permis à beaucoup de gens de sortir des modèles traditionnels, de sortir des modèles d'éducation traditionnelle qu'on peut avoir en France ou en Europe, de s'inventer une vie entrepreneuriale ou intrapreneuriale ou économique différente. Et pour moi, l'économie de l'usage, c'est une vraie révolution. Et c'est vrai aussi dans le modèle de société de l'information, où on est passé d'une société de l'information complètement verticale à une conversation, à une société de horizontale. Pour autant, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, quand on a le niveau de capitalisation boursière dont parlait Sandrine tout à l'heure, la puissance des entreprises auxquelles on pense, par exemple les GAFA, est-ce qu'elles sont dans une logique de développement durable d'un modèle et de prolongement d'une promesse, ou est-ce qu'elles reproduisent un modèle ancien et par exemple Amazon, qui est pointé du doigt par Bernie Sanders aujourd'hui aux États-Unis sur son salaire médian, qui est en dessous du salaire médian américain, et où l'État est obligé de compléter le revenu des salariés d'Amazon par des aides parce que ils n'arrivent pas à s'en sortir. Là, il y a un problème et il y a une erreur fondamentale pour demain en fait. Je pense que il faut pas que l'économie numérique, ça serait très grave, que la nouvelle économie tombe dans le travers de l'ancienne, qui est de continuer à essayer de faire croire que au départ, effectivement, on est un entrepreneur, on a pris des risques, et que quand on passe à une économie de la rente, en réalité, on ne partage pas la valeur avec ceux qui la créent, et on crée un système à deux vitesses. Et ça, c'est vraiment le danger de demain.
Sandrine Cassini.
Oui, peut-être d'abord sur ce rêve, cette utopie, on voit bien aujourd'hui que la Silicon Valley, elle est un petit peu en pleine remise en question. Aujourd'hui, les start-upers américains choisissent d'autres endroits que la Silicon Valley pour créer leur entreprise. Pourquoi ? Parce que des déséquilibres énormes se sont fait jour. On peut plus se loger, on peut plus embaucher un développeur. Ça coûte énormément d'argent, on peut plus le faire. Et voilà, donc je pense que à ce titre-là, elle est quand même beaucoup remise en cause. Ce modèle qu'ils ont créé, qui était un modèle idéal, aujourd'hui, il se prend un peu les pieds dans le tapis. C'est pas du tout, c'est une société très inégalitaire, c'est un endroit très inégalitaire, poussé à son paroxysme. Donc ça, il va falloir corriger ça. À tel point aujourd'hui qu'on la fuit. Après, sur le partage de la valeur, je pense que c'est pas tellement... Alors, chez Amazon, je pense que c'est un cas particulier, parce que chez Apple, Facebook, Google, les gens sont très bien payés. Le partage de la valeur, il se fait plutôt entre les dominants et les entreprises avec lesquelles elles contractent. C'est ça la vraie difficulté. C'est comment on fait quand on est une petite boîte face à ces géants. Ce sont ces déséquilibres-là qui sont créés par nature, parce que face à des géants, on n'est rien.
D'où un besoin de régulation, sujet dont on revient très régulièrement dans cette émission.
Ce qui est très nouveau depuis l'arrivée de Donald Trump, c'est que Obama avait fait de la Silicon Valley des alliés objectifs. Alors, Donald Trump, pour des raisons qui me paraissent pas complètement fondées, mais en tout cas a décidé de se battre contre eux, lui préfère les vieilles industries. Et aujourd'hui, un débat qui n'existait pas encore il y a 2 ou 3 ans aux États-Unis émerge sur la nécessité réellement de réguler ces géants
de l'Internet. Ouais. Pour terminer, troisième au fond idéal qui était celui porté par cette utopie californienne, c'est un idéal de transparence, d'open source, d'open data. Et là, on voit que, notamment à partir de la face cachée des algorithmes, mais beaucoup d'autres choses, que cet idéal est aussi un petit peu... suscite une déception, c'est vrai, Nodé.
Oui, alors je crois qu'il y a deux sujets quand même. On a un peu tendance à confondre et à mon avis à se tromper de débat quand on parle des plateformes aujourd'hui, et donc le sujet est essentiellement autour de Facebook, où on considère que Facebook est un média au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire qu'il y a une ligne éditoriale et que Facebook est là pour informer les gens, sauf que c'est pas du tout le cas. Et Facebook ne s'est jamais vécu comme ça. Facebook,
c'est un outil.
C'est un outil de
qui n'est ni bon ni mauvais en soi.
Exactement. Au départ, de mise en relation entre les gens qui ensuite monétisent son audience avec de la publicité sans aucun modèle ni éditorial ni idéologique derrière. Et alors, effectivement, du coup, on se rend compte que ça a des conséquences. Bon, mais il faut arrêter de penser que on est face à de raisonner comme face à un modèle traditionnel. Et puis, si je reviens sur ton autre point, Frédéric, tu parles d'open data, tous ceux qui auraient dû se saisir de cette immense opportunité que le web apportait de faire effectivement plus de transparence, d'exemplarité, de démocratie collaborative, participative, ne l'ont pas fait et ne le font toujours pas. On a eu ce débat ici l'année dernière. Il suffit de voir où on en est au Parlement français sur la transparence et sur des modèles d'open data et de conversation ouverte. On est au niveau zéro, nulle part.
Oui. Pour terminer, Sandrine Cassini.
Oui, juste, ce dont on se rend compte, c'est que ces grandes plateformes, la Silicon Valley, ces grandes plateformes, ce qu'a fait émerger Cambridge Analytica, c'est qu'elles ont une responsabilité finalement. C'est pas parce que, ce sont pas des médias traditionnels au sens où on l'entend, mais elles manipulent des données très sensibles de gens et on voit bien les limites de l'exercice. C'est-à-dire que quand elles se prennent les pieds dans le tapis, ça met en lumière la nécessité de contrôler, de ne pas faire n'importe quoi, etc. Parce qu'elles ont une responsabilité. Et c'est ça dont elles n'ont pas eu conscience pendant trop longtemps. Alors, ils font des mea culpa aujourd'hui parce qu'ils sont obligés. Mais voilà, ils ne peuvent pas s'en laver les mains. Et c'est ça que ça a un peu battu en brèche.
Utopie, réalité d'aujourd'hui, on voulait aborder cette question. On y reviendra. C'est au fond un peu un des sujets qu'on traite chaque semaine dans Soft Power. On en reste là pour ce soir. Merci infiniment à tous les deux. Sandrine Cassini, journaliste au Monde, et Séverin Naudet, blogueur qu'on retrouve dans Tech & Co sur BFM Business et l'un des dirigeants de la société Amaris. Dimanche prochain, nous parlerons des élections présidentielles au Brésil et de leur dimension numérique, culturelle, média et de soft power. Nous y sommes d'ailleurs ce soir et c'est pourquoi cette émission ce dimanche était exceptionnellement enregistrée. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, le magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.